Alors, ce soir, c'est le premier de nos quatre cafés historiques, mais c'est le seul où nous aurons la chance d'avoir deux conférenciers. Alors, nos conférenciers de ce soir, premièrement, Luc Nicole Labrie. Alors, Luc, qui est un animateur professionnel qui œuvre dans le domaine de l'histoire à Québec depuis maintenant une décennie pour le vieillir un peu. Donc, Luc, qui a fait ses études en histoire à l'Université Laval et qui est également l'ancien copropriétaire des services historiques qui s'associe avec moi et qui est encore animateur à la compagnie. Il fait de nombreux projets, des conférences, etc. Donc, vous aurez l'occasion de le connaître durant la soirée. Et notre deuxième conférencier, Carl Pépin, ici à ma droite. Alors, Carl qui a fait un doctorat en histoire, qui a soutenu sa thèse en 2008 à l'Université Laval et qui est en ce moment chargé de cours au Collège Royal Militaire à Kingston. C'est ça. Et également à l'Université Laval. Donc, tous deux tiennent un blog depuis quelques temps. Ils vont pouvoir vous entretenir ce soir de leur démarche et vont pouvoir discuter ensemble ultérieurement de ce que ça apporte comme questionnement. Donc, chacun des deux conférenciers va pouvoir vous entretenir pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, bien, on ouvrira la discussion pour que tout le monde puisse s'exprimer et échanger avec les conférenciers. Sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens simplement à vous dire que c'est un honneur pour moi, et je pense que mon collègue Luc Nicole partageant mon avis, d'être parmi vous si nombreux ce soir à la première des Cafés historiques. En fait, je tiens à remercier, bien entendu, madame Marie Voilette et l'équipe d'HistoireEngagée.ca pour avoir qualifié cet événement-là. Également, le personnel du Café 4M pour le chaleureux accueil, la très belle ambiance, en fait, ici ce soir. Donc, voilà, je vais vous dire bien franchement, quand on m'a contacté pour présenter une conférence sur un blog, je ne sais pas si c'est... Ouais, merci, Luc. Il est pas bien, c'est mieux aussi, ce blog-là. En fait... ce qui m'a, on m'a demandé de parler d'un blog. En fait, j'ai démarré mon blog en mars 2009 et je vous dirais qu'au moment où on se parle, oui, j'ai environ 115 articles de fond. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont des essais, disons, entre 2000 et 4000 mots, généralement, qui portent, je vous dirais, à 80-85% sur mon champ de spécialisation en histoire, qu'est l'histoire militaire, l'histoire des batailles, de la guerre, et aussi l'histoire des relations internationales, essentiellement 19e, 20e siècle. Alors, voilà. Là, vous le voyez sur le titre du blog, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens québécois qui s'intéressent à l'armée italienne en Abyssinie entre 1887 et 1941. Je ne sais pas si vous connaissez MC Gilles, des fois, qui était à Foreman. Il s'intéresse à ce sorte d'artistes pas connus. Moi, je suis un peu le MC Gilles de l'histoire militaire. Je m'intéresse aux batailles dont personne ne parle. Et voilà. Donc, disons, ce serait peut-être ma petite mise en introduction. En fait, quand je vous dis, je vais vous donner seulement des statistiques avant de céder la parole à mon collègue. Je vous dirais qu'en ce moment, depuis, je dirais que j'ai à peu près une moyenne de 300-350 visiteurs par jour sur mon blog. Je vais atteindre cette semaine mon 20 millième visiteur. Alors, je l'entretiens assez souvent. Je publie à peu près, une dizaine d'articles par mois. Et comme je vous dis, ce sont des articles essentiellement de vulgarisation. C'est un peu ça mon but, en fait, au départ. Et voilà, donc c'est le blog. Le titre n'est pas très original, mais je crois qu'il dit tout. Donc, je pourrais peut-être passer la parole à Luc, et après ça, ben, on sera là pour échanger. Là.
Merci beaucoup, Gare. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier aussi tous les gens qui sont près de cette organisation-là, incluant les gens du Café 4M. Donc, je parle des 6 associés ici à Québec, mais aussi de l'histoireengagée.ca. Moi aussi, j'ai été tout de suite piqué. C'est ça, quand Marie m'a présenté, c'est drôle parce que je parlais de ça avec quelqu'un d'autre, je me présente comme un historien à l'extérieur du champ académique. Il y a une grande discussion à y avoir à ce sujet-là aussi, mais bref, c'est pas le but de ce soir. C'est ça, puis en me posant la question comment je fais l'histoire, je me suis rendu compte que j'allais pas dire que c'était grosso modo 5 ans que je suis à l'université. Puis je me rends compte que j'ai commencé l'université, ça fait 10 ans, puis qu'en réalité, dans les 10 dernières années, j'ai passé 8 ans et demi à l'université. Donc, je ne sais pas à quel point je suis plus à l'université.
on peut sortir un gars de l'université, hein, mais on peut pas.
Non, mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, mis à part ma formation en histoire, un baccalauréat et une maîtrise. Moi, comme Méric Kerr à l'Assemblée nationale, qui n'a pas de bac, moi, j'ai pas de maîtrise, mais je l'ai écrit sur mon CV. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai. ma maîtrise n'est pas compliquée, mais non, puis au moment, en fait, où. Je m'excuse à tous les gens qui. Ça n'a rien à voir avec, du tout avec le personnage. Ben, pour ceux qui ne savent pas, il y a une petite. Une affaire un petit clin d'œil d'actualité ici, là. Mais bref, c'est vraiment pas politique ce que je veux faire, je reviendrai là-dessus. Non, mais en réalité, je vous dis ça parce que c'est ça, cette réflexion-là, pour moi, la création du blog, moi, mon blog, Histoire et Société, que je vais vous montrer tout de suite, je vais d'ailleurs revenir sur le titre, sur la fonction. C'est un blog que j'ai créé en octobre 2009. Donc, nos deux blogs, comme vous voyez, sont assez récents, ont respectivement presque 2 ans et un an. Presque un an et demi. Donc, vient avec le fait que j'ai continué une formation à l'université en tourisme à l'Université Laval et maintenant en interprétation et médiation culturelle à l'Université du Québec à Trois-Rivières, que je fais actuellement. Donc, il y a vraiment toute cette réflexion-là. En fait, moi, je me base non seulement sur l'histoire, mais je me base aussi sur la transmission de cette histoire-là. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un blog que je mets à jour normalement une fois par semaine quand j'ai pas de conférence à préparer. Sinon, c'est un blog aussi que j'essaie de qui est hébergé sur Blogspot. Pour ceux qui le connaissent, blogspot.com, qui est le service de Google, et on a des statistiques sur Blogspot seulement depuis l'été 2010. Donc, je sais que depuis à peu près juin 2010, j'ai à peu près 11 000 visiteurs qui sont venus, donc visites individuelles de pages sur le blog, ce qui est quand même pas mal là, pour faire des statistiques. Moi aussi, c'est la partie poutine que je vous offre ce soir. Pour le reste, ben voilà, tu sais, je veux pas vraiment en parler plus que ça. C'est un blog, moi, contrairement peut-être une des principales différences, je pense, de nos approches, c'est que moi, mon blog est ancré sur la ville de Québec, donc dans le sujet, c'est primordial, c'est très différent. Ancré également aussi sur l'actualité, dans le sens que l'inspiration pour mes sujets de blog me viennent de l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'essaie pas de commenter l'actualité, j'essaie de essayer de donner une vision historique à un sujet d'actualité. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, peut-être êtes-vous au courant, il y a eu une démission choc à Québec d'un des hauts fonctionnaires de la ville. Et cette démission-là, en fait, a fait questionner des gens sur le style du maire de la ville de Québec. Et puis, ben, moi, ça m'a fait dire, c'est intéressant. Puis, comme ils se sont questionnés, il y a eu un sondage sur le taux d'appui, du taux de satisfaction d'à peu près 80% que le maire continue d'avoir. Je me dis, waouh, c'est fantastique, 80%, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres maires qui ont eu ce taux de satisfaction-là? Ce qui m'a amené à faire une petite recherche sur la longévité ou les majorités écrasantes que les maires ont pu avoir, surtout en temps d'élection, parce que là, me lancer dans les sondages. Bref, ça, c'est une autre limite du blog, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Bref, c'est une petite présentation de l'esprit de mon blog que je voulais vous faire, puis on pourra peut-être parler un peu plus en détail d'où est-ce que tout ça, ça vient, puis comment tout ça, ça se met, puis les préoccupations qui viennent avec faire une espèce de blog comme ça qui est très ancré, créé dans l'actualité. Je sais pas si tu veux que continuer peut-être plus tard à ce moment-ci. Donc, j'utilise mon ricochet. Merci, Yvan Ponton, qui est assis là derrière.
Merci, Monsieur le Président. Alors, en fait, Luc parlait de l'esprit d'un blog. Moi, j'appelais ça plutôt un terme peut-être moins évolué, le principe de base qui m'a amené à rédiger mon blog. Et en fait, c'est sûr que quand on est dans un milieu universitaire, ben, comme plusieurs d'entre vous, on passe par des comités de révision. Des fois, quand vous publiez dans des revues académiques, j'en ai fait aussi des publications. J'ose croire que je vais en faire encore si on me le demande. J'ai rien contre la critique des comités de révision. De toute façon, quand on fait une thèse, vous savez, il y a un jury qui lit, qui évalue, et fasse tel paragraphe, reformule telle phrase. Pourquoi tu parles de ça et que tu ne parles pas de ça? On fait ça aussi dans les comités de révision des magazines. C'est pas que j'étais fatigué de me faire poser ce genre de questions-là, parce qu'en général, je ne veux pas me vanter, mais quand j'envoie un article, j'avais pas énormément de corrections à faire. Des petites fautes à gauche et à droite, puis changement de fond des fois, mais sinon c'était somme toute mineur. Mais par contre, le gros avantage avec le blog, c'est que je n'ai plus ce problème-là. j'ai du problème, là, mais c'est pas... j'ai déjà été moi-même sur un comité de révision, puis j'étais moi-même la source du problème, pour certains. Mais en fait, c'est que je ne voulais plus avoir à me faire imposer ce que j'appellerais une certaine ligne éditoriale. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les revues qui en imposent une. Quiconque ait travaillé dans des journaux, des fois, bon, il y a certains, certaines formes éditoriales à respecter et tout. Par moment, l'histoire, il peut arriver aussi qu'il y en ait, et moi, je veux un peu me dégager de ça. Et l'autre aspect aussi, c'est que je voudrais revenir juste au niveau du lectorat, c'est que, bien sûr, et encore une fois, je me suis rendu compte que quand on publie dans des revues scientifiques, des revues spécialisées, je me suis toujours dit, j'ai commencé à faire à la maîtrise jusqu'au doctorat, je le fais encore aujourd'hui, combien de personnes me lisent? C'est toujours la sempiternelle question que je me demande. Pour certains, ça, ce ne soit pas une question, disons, qui va les empêcher de dormir. Moi, ça m'empêchait de dormir, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, l'historien doit être dans la sphère publique, et je me dis, bon, c'est pas dans la sphère publique, j'ai plutôt l'impression d'être dans un carré en ce moment, avec quelque chose d'hermétique, à angle droit, et j'ai pas de marge de manœuvre là-dedans. Tandis que là, j'ai à peu près, sans prétention, l'humanité, le monde entier, du moins ceux qui lisent le français, qui peuvent voir et lire, merci Luc, lire ce que j'écris. Donc, voilà en gros, je vous dirais, comme Luc parlait, la lettre, l'état d'esprit dans lequel j'ai été amené à faire un blog. L'autre affaire aussi, et ça c'est une difficulté peut-être quand on écrit un blog, lorsque vous écrivez par exemple un article dans une revue spécialisée, pour certains d'entre vous qui l'avez déjà fait, ou quand vous écrivez une thèse et que vous êtes devant les avis d'un jury, moi c'est comme si vous êtes un entrepreneur et que votre client, parce que là on parle des clients ici, a certaines exigences. Je l'ai dit tout à l'heure, le client vous demande des révisions, aimerait ça que vous abordiez tel et tel aspect d'une question, d'une problématique. Dans le blog, on ne sait pas c'est qui le client. En fait, on sait c'est qui, c'est la planète, sauf qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Et souvent, quand un client arrive dans un magasin, parfois, ça peut arriver qu'on ne sait pas ce qu'on va acheter. Souvent, on va y aller de façon impulsive, je vais prendre telle pièce de vêtement, tel type de nourriture et tout. C'est une idée, une question qu'on ne se posait même pas lorsqu'on a quitté la maison. Donc, les gens qui arrivent sur mon blog, je ne sais pas si Luc a eu la même impression, mais c'est... Dans le fond, je suis comme un magasin général. Je leur offre une certaine variété de produits. Certains vont les lire, certains ne vont pas les lire. Et la preuve, c'est que, je ne sais pas si on peut descendre un petit peu dans la page. Merci. Peut-être faire quelques clics. Vers la gauche. OK, stop. Si vous regardez à gauche, à la section articles les plus consultés, comme Luc le disait tantôt, dans WordPress, qui est le moteur de blog que j'ai, on m'informe des articles qui ont été les plus lus dans la semaine. Et c'est, bien entendu, sur les 115 articles à peu près que j'ai publiés, c'est jamais la même chose. Donc, c'est la preuve que les gens, quand ils arrivent ici, sur le blog, pigent un peu partout. Par exemple, le 11 novembre dernier, évidemment, c'était le jour du souvenir, tous mes articles que j'ai publiés sur l'histoire de l'armée canadienne au cours des deux guerres mondiales, le Royal 22e Régiment, il y avait une grosse, grosse demande, et c'était les articles les plus consultés. Cette semaine, c'est quoi? Les campagnes napoléoniennes, vous voyez, l'armée romaine. Donc, on revient à quelque chose. On dirait que ça suit un peu la tangente des événements, je ne sais pas trop. Alors, vous voyez un peu. Si on remonte un peu encore, merci, Luc. Donc, à gauche, vous voyez les articles les plus récents, donc en ordre chronologique. Alors, vous voyez, des fois, ça ne correspond pas nécessairement avec les articles les plus consultés. Et ça, je voulais que le public voit ça un peu. Parce que des fois, ça arrive, je dis bien candidement, que des fois, je peux écrire des choses et je me réveille, je me dis, ah, c'est bon. Et des fois, mais c'est très rare que je vais remodifier le fond d'un article, sauf si je constate une faute et tout. Mais je laisse comme ça, puis les gens commentent. Puis ça, je pourrais peut-être en parler un peu tantôt. Mais disons, avant de céder la parole à lui, que je vous dirais que l'état d'esprit dans lequel j'ai été amené à créer ce blog-là, c'était, oui, m'exprimer et informer. Mais il y a une troisième dimension qu'on aurait pu rajouter dans le titre de la conférence ce soir, c'est le mot « réaction ». Comment les gens vont réagir. S'informer, exprimer et attendre des réactions, si je peux dire. Donc, c'est un peu, disons, la première compréhension de la problématique.
C'est une excellente passe, Carl, merci. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, je vais vraiment revenir à l'état d'esprit de mon blog. Je pense que c'est là que ça va être quelque chose qui va être important. Vous voyez, la réaction, je me demandais vraiment ce que ça allait faire. Je pense que ça va revenir. Merci, Jules. En fait, ce qui arrive, c'est que mon blog, avant que je le crée, il y a eu une méchante longue réflexion. Je vous explique en fait un peu ce qui se passe, puis ça va un peu avec un cheminement personnel. En 2009, j'ai arrêté de faire du bénévolat dans une radio étudiante. Ça faisait 10 ans que j'en faisais. 10 ans, c'est... En tout cas, encore une autre affaire que j'ai dit « wow! » c'est une longue période. Puis bref, non pas que... C'est un peu cliché de dire ça, il y avait un trou dans ma vie, mais... non, mais dans le sens que, pour moi, c'était important de redonner d'une façon ou d'une autre. Et puis, j'ai essayé de me poser la question comment faire. Une autre chose qui était très importante et que je me suis rendu compte aussi, c'est que, c'est ça. Marie-Ève l'a dit, ça fait à peu près 10 ans que je travaille maintenant en interprétation, surtout de la ville de Québec, mais un peu à d'autres endroits aussi. Donc, je parle que je communique l'histoire. Peut-être pas que je fais les recherches, que je communique l'histoire. Et en plus de ça, 2008, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y avait le 400e de Québec. non, on fait des blagues, mais en fait, en 2008, les 6 associés, entre autres, ont participé à un beau projet d'une émission de télévision. Donc, une assez belle expérience média pour les 6, dont Marie-Ève Ouellet, qui est présente ici ce soir, et moi-même avons participé en offrant des capsules historiques à la télévision. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a énormément rapport, cette expérience-là, avec le fait de lancer un blog. Je me suis rendu compte, en fait, qu'avec les médias, puis j'ai aimé ça aussi, le commentaire de Carl à propos des comités de rédaction, puis du doigt inquisiteur qu'on met sur la phrase X, puis le mot Y. Je fais ça gros, là, je fais un cliché, en fait, mais on s'est rendu compte, moi et Marie-Ève, je pense qu'elle peut en témoigner, que les médias ont exactement le même genre de demande. Une des choses qui était super trippante, c'est que quand on a commencé à faire la télévision, on se faisait toujours demander « Oui, mais il n'y a pas quelque chose de premier. C'est quoi la première? C'est quoi la première? Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Y a-t-il une première à Québec? Le filet de hockey, ça s'est inventé à Québec? Hein? C'est-tu ici? C'est-tu... » Là, comme si, là, absolument, à ce moment-là, ça devenait super important. Puis, moi, vraiment, cette expérience-là, cette phrase-là en particulier, m'est restée dans la tête. Puis quand je me suis mis à dire, OK, il y a des bonnes contraintes dans les médias, mais aussi, ce qui est intéressant, ce serait, moi, je continue d'aimer ça, parler de l'histoire. Je me retrouve avec une espèce de vide, puis après le 400e, peu importe ce qu'on pense de la place des historiens dans le 400e, force est d'admettre qu'il y a eu une sorte de vide, il y a eu une espèce de creux, de vortex qui a été créé par... on était un peu tanné, là, ou en tout cas, il y a eu, puis... C'est vraiment ma perception très personnelle que je vous partage là. Pour moi, il y a une sorte de vortex. Là, je me suis dit, mais ce serait intéressant qu'on continue de parler d'histoire puis qu'on continue de parler d'histoire de la ville de Québec. C'est une ville que j'adore, c'est une ville dans laquelle je travaille, puis je n'habite même pas dedans. Mon secret est révélé. Pas que j'aimerais pas ça, là, mais bon, en tout cas, je vous raconterai pas ma vie au complet. C'est pas si fun que ça. Donc, tout ça pour dire que, vraiment, moi, je pensais qu'il y avait un lien. Fait que moi, je me suis dit, je veux parler de l'histoire de la ville de Québec. Comment je fais? OK, j'essaie de trouver comment je fais. Est-ce que je veux essayer d'aller me battre pour vendre des choses à des comités de lecture, puis à des journaux, puis à des revues? J'ai dit, je suis pas sûr d'avoir le temps, j'ai un travail à temps plein. C'est un peu difficile de me lancer à combattre. Je me suis dit, parfait, je vais créer quelque chose dans lequel je vais avoir le contrôle. Puis c'est un peu comme ça qu'il y a le blog. Puis en plus de ça, mon blog, quand j'ai créé, moi, c'était super. J'avais une espèce de super projet où j'avais écrit à peu près 15 de mes contacts en histoire, des gens qui avaient fait leur bac à mon époque, donc presque à la fin du 20e siècle. Des gens qui travaillent ou non dans le même histoire, puis je leur ai dit, hey, on va partir quelque chose ensemble, puis on va essayer de faire des petits articles sur l'histoire, ça va être super trippant. Puis là, 6 mois après, il y a Histoire engagée qui arrive, je me suis fait upstager, non, mais. Mais tout ça pour dire que j'avais cette espèce de projet-là. Finalement, mes contacts n'ont pas voulu embarquer du tout, puis je me suis retrouvé à faire ça, puis je me suis dit, moi, ça me tente assez que je vais le faire, ce bloc-là. Puis c'est là que je me suis dit, je vais essayer de le faire, puis comment je vais faire ça original? Puis là, je me suis mis à chercher des blogs sur Internet. Comment on fait de l'histoire sur Internet? Puis je me suis rendu compte que dans beaucoup de cas, j'allais dire beaucoup trop, mais beaucoup de cas, on fait l'histoire comme on fait le reste des blogs et des Twitter. C'est-à-dire que il se passe quelque chose, scandale, machin, le député local a donné un pont à ceux qui avaient voté pour lui. Et, oh, c'est comme du Plessis, c'est comme ça, puis moi je sais que ça marchait de même, moi je suis en histoire, puis en 1936, c'est ça qui s'est passé à Saint-Machin dans l'arrière. Là, je me suis dit, ah, c'est intéressant, on fait beaucoup d'histoires pour commenter.
Donc, on réagit, puis on sort de l'histoire pour dire, regardez ce problème-là, ben, moi, je suis en histoire, je sais que cette chose-là est arrivée il y a 20 ans aussi. Cette chose-là est arrivée il y a 40 ans, cette chose-là, c'est déjà passé. Je me suis dit, est-ce que ce serait possible, à ce moment-là, de sortir du commentaire? Moi, j'ai pas envie de me lancer dans des débats. Premièrement, j'ai pas le temps, là, de... C'est plate comme ça, là, mais avec une... plusieurs choses qui se passent à l'extérieur de l'Internet. Moi, je ne sais pas vous, je suis très content si vous avez eu beaucoup de temps pour argumenter des heures sur Internet. Moi, j'ai pas le temps. Donc, je me suis dit, ça me donnera rien d'aller commencer à bâtir un blog sur lequel je n'aurais pas le choix d'aller me passer des heures à tous les jours pour essayer d'argumenter sur...
pour essayer d'argumenter sur... c'est ça, si j'ai raison, si j'ai tort, aussi pourquoi, aussi, j'ai pris bon exemple, c'est ça. Donc, je me suis dit, on va essayer de faire un blog historique, un blog en histoire, avec un lien avec l'actualité. Si je veux être lu, la préoccupation d'être lu est là, mais en même temps, très franchement, pour moi, c'est un exercice pédagogique. Ça a l'air très. D'un côté, ça a l'air poétique, ça a l'air comme tellement détaché, mais je ne suis pas au-dessus de ça. Non, je le fais vraiment pour moi, mais au point de vue pédagogique, bon, ça, même s'il y avait 12 personnes qui relaient mon blog, pour moi, à la limite, ce serait pas important dans le sens que c'est important pour moi de me forcer à faire ce blog-là. C'est important pour moi de me forcer à faire un texte, puis contrairement à Ted Lacarde qui utilise des messages de 2000 à 4000 mots, j'essaie de rester dans une forme très succincte. Pour moi, ça rapporte exactement avec le public, comme Carl l'a dit, on s'adresse à la planète. Moi, j'essaie de m'adresser, je vais peut-être aller faire le sourire à la personne, la spécialiste qui a eu 23 livres, ou ça fait 25 ans qu'elle étudie la ville de Québec, qui va se dire « Ah oui, je m'en rappelle de ça ». Mais mon but, c'est surtout de faire à l'internaute qui passe par là, puis qui lui, il a dit « Hein, la commission Mastarache, qu'est-ce qui se passe ?» Dans la commission Mastarache, j'ai fait un article sur la commission Friche. Parce que je trouvais que jusqu'à un certain point, il y avait des liens. On avait parlé, pour ceux qui ne connaissent pas la commission Cliche, commission qu'il y a eu dans les années 70, entre autres, sur le monde de la construction. Bref, vous verrez un blog fort intéressant sur ce sujet. Je me suis dit, je vais faire un clin d'œil, c'est tout. J'ai pas besoin. Pour moi, j'ai pas besoin de rentrer dans des. Et puis, c'est pas ça mon rôle, parce que justement, autant moi, je fais de l'histoire, j'ai été formé à cette école-là, j'ai subi, profité de critiques, mais. Gagner à ce jeu-là des critiques, ou en fait, juste pour trouver le mot qui vous intéresse, j'ai gagné à lire ces critiques-là, ben autant je me suis dit je vais me baser sur ma formation et puis je vais essayer d'aller chercher ce qu'il y a de bon dans ma formation pour offrir un clin d'œil. Je veux pas rentrer dans le détail, c'est pas mon rôle, c'est pas ma place. Je n'ai pas de comité de lecture. Mon travail à moi, je le fais par moi. Il n'y a personne qui peut me lire, il n'y a personne qui peut me dire « Oui, tu devrais parler de ça. Oui, tu ne devrais pas parler de ça. As-tu pensé à aller consulter telle source? As-tu pensé à aller tel auteur? » Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. De un, je n'ai pas le temps. Essayer de faire un blog par semaine, même si j'en faisais un par mois, ce serait difficile. Donc, pour moi, l'intérêt est là. Garder une rigueur historique, mais limiter le message dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à un grand public. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Puis pourquoi? Parce que je veux que ce soit le fait d'œil. J'ai pas la prétention que ce soit une porte d'entrée vers le savoir académique. Puis c'est un peu ça pour moi qui est derrière ça. C'est pour ça que j'avais pas beaucoup de réponses sur mon blog. Puis je te repasse la parole, Carl. Ne crains là.
Le feu est allumé, t'as allumé le feu,
Non, mais c'est pour ça que pour moi c'est important. Je cherche pas le commentaire, je l'attends pas à un certain point. Je vous l'ai dit, j'ai pas le temps de le faire, mais c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de susciter le débat. Un des plus beaux commentaires que j'ai eu, c'est quand je parlais de la pierre blanche des plaines d'Abraham. Pour ceux qui ne la connaissent pas, faites du casque à Moune Bélanger sur les plaines d'Abraham. Et tout ça, super lien en plus avec le blog de Carl, parce que c'est un monument qui a été créé à la mémoire d'un régiment militaire de Québec, le 8e Royal Rifle, qui a été envoyé dans la Deuxième Guerre mondiale en 1941 à Hong Kong, et qui a été, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la bataille d'Hong Kong, c'est une cuisante défaite de l'armée canadienne et de ses alliés, et le reste du 8e Royal Rifle, ceux qui n'ont pas été tués, ont été gardés comme prisonniers de guerre. Et moi, les plus beaux témoignages, j'ai deux commentaires sur le blog, pas compliqué. Il y en a un, c'est quelqu'un qui a parlé d'un livre, parce que j'ai fait des vraies bibliographies commentées, et l'autre, c'est la descendante du monsieur qui a fait ce monument-là, qui est un pasteur de Québec qui s'appelle Frederick George Scott, qui a créé ce monument-là. Et pour moi, c'est un peu ça.
comme je fais un clin d'œil, pour dire aux gens, ça va vous faire cliquer sur quelque chose. Je veux qu'ils parlent de ce site-là, puis je veux qu'ils aillent ailleurs. En réalité, c'est un peu ça. S'ils sont capables de lire, il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de problèmes qui viennent avec ça, il y a toutes sortes de questions qui peuvent venir avec ça, mais avec les ressources que j'ai et avec le temps que j'ai, c'est ça que je peux faire.
Aussi, si vous me permettez, je vais me départir du micro un peu. J'ai une voix qui porte assez quand même, puis je suis pas très à l'aise avec les micros généralement. En mauvais politicien que je suis. Donc, en fait, pour poursuivre un peu sur ce que Luc disait, Luc parlait tantôt, bon, l'état d'esprit du blog et tout. Je pense, moi, ben, si jamais c'est pas que je fais, vous avez dans l'idée un jour d'en démarrer un. Full chose dans un premier temps, j'aime bien faire certaines métaphores. Un blog, c'est comme une plante, il faut l'entretenir. Si on veut la voir fleurir, la pousser. Non, mais c'est ça parce qu'il y a tellement de gens qui démarrent un blog sur quelconque sujet et ils vont écrire quelques articles à façon d'entendre parler pendant deux ans. Et d'ailleurs, j'ai failli moi-même tomber dans ce piège-là. Alors, parce que lorsque j'ai démarré mon blog en mars 2009, je l'ai très bien arrosé pendant, disons, 6 mois. Après ça, disons que j'ai été un bon 4-5 mois sans y toucher. Et là, j'ai décidé de garder. J'avais deux options. Soit que je le fasse ou que je le maintiens. Et là, il est très vivant aujourd'hui. À l'époque, j'avais à peine 10 articles de publiés. Aujourd'hui, j'en ai rajouté une centaine. Donc, vous voyez un peu, c'est quelque chose, lui, parler d'un état réflexif. Tantôt, il faut faire une réflexion. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on lance à brûle pour point comme ça. Il faut vraiment y penser. L'autre aspect, quand on écrit des articles, et je vais revenir peut-être un peu à la méthode historienne, tous ceux d'entre vous, en tout cas, qui sont dans le domaine, je dirais que quand vous avez, vous étudiez dans vos champs de recherche, vous avez, disons, la méthodologie générale, présenter l'historiographie, l'intrinsèque des sources, et ainsi de suite, et vous développez aussi des réflexes par rapport à vos propres champs de recherche. Par exemple, vous savez que les auteurs dans votre domaine écrivent souvent des textes de telle façon, ils prennent la peine de faire telle précision. En histoire militaire et histoire de la guerre et des batailles, c'est un peu la même chose. Nous, dans notre cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'expliquer une bataille et tout, c'est toujours, par exemple, de présenter une carte des opérations, de situer le lecteur le moins commun. Ça, les gens peuvent le comprendre, ça. Il ne faut pas mettre des documents, disons, trop précis avec chaque nom de hameau. Mais disons, pour dire une idée générale, voici ce qui s'est passé là. Et ce que les gens aiment beaucoup aussi, et ça ne va pas du tout adoucir l'article, c'est quand vous placez, par exemple, une image du champ de bataille de l'époque versus ce qu'il est devenu aujourd'hui. Certains diront que c'est un ça. Le champ de bataille est un lieu de mémoire, en tant que, comme le sont les cimetières militaires. Luc parlait tantôt du désastre de Hong Kong du 7 décembre 41, peut-être un prochain sujet d'ailleurs. Mais c'est ça. Aujourd'hui, vous allez là, c'est fleuri, c'est beau, mais. Pas faire votre épicerie là le 7 décembre 41, c'était pas chic. Donc, vous voyez, il faut cette dimension-là, un peu anecdotique, il faut par moment que le lecteur la ressente. Sinon, on devient carrément plate quand on écrit un texte. Et le fait d'enjoliver le texte de cette façon-là, je me répète un peu là-dessus, ça ne consiste pas à abrutir l'information. Je le dis, je le redis moi-même, comme vous tous, j'ai été formé, j'ai eu mes maîtres, j'ai appris la méthode. Moi, j'ai été formé à l'Université Laval ici, comme certains d'entre vous. C'est pas, par exemple, quand je cite un chiffre sur l'état des pertes après une bataille, quelque chose comme ça, je l'avoue, je ne mets pas de note de votre page. C'est comme un médecin qui voit quelqu'un mal à la tête et qui va prescrire des adhibits tout de suite, sans considérer qu'il y a peut-être au fond des médicaments génériques qui pourraient faire je ne sais pas. Mais non, je ne cite pas toujours mes sources à un détail près. Si je cite textuellement les paroles d'un personnage, je vais le faire. Et ça, c'est l'autre aspect du blog aussi, justement, au niveau de la critique des sources. On peut se permettre d'en faire une qui ne soit pas trop poussée, mais que les gens puissent comprendre que l'historien s'engage dans son sujet. Par exemple, en histoire militaire, c'est fréquent dans les batailles à toutes les époques que, par exemple, un général, un commandant va agir de telle façon. Parfois, on suppose que c'est bien qu'il a gagné. D'autres fois, il a paniqué, il a gelé sur le champ de bataille, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place et tout. Moi, je me permets certaines. Bon, ça ne j'étais pas là, bon, je n'ai pas été dans telle bataille. Je me permets quand même de juger ça, pas trop durement. Si c'est un personnage que j'ai vécu il y a 2000 ans, n'allez pas penser que Jules César avait toujours un bon commandement dans la guerre des Gaules en 52 avant de faire. Souvent, s'il n'y avait pas Marc-Antoine avec lui, ça aurait été pire encore. Donc, c'est d'apporter des petites précisions comme ça, des choses que je trouve qui est extrêmement important.
Excellente question!
En fait, bon, ça c'est pour un ton d'argent, si vous voulez, tantôt. L'autre aspect que je voulais juste revenir, puis on en a parlé un peu, je m'excuse, c'est un peu décousu, mais je pense que c'est un peu ça le principe. Sur le niveau de l'aspect visuel du blog, je ne sais pas si on peut revenir sur l'autre aussi. Ah oui, excusez. Je voulais juste préciser une chose, c'est que, par exemple, certaines personnes qui vont travailler avec des sites comme Blogspot, qui est CodeLuc, et ce qui est mon cas à moi de WordPress, qui est un moteur américain aussi, ce qu'il faut se rendre compte dès le départ, ce qui est important, c'est de choisir une configuration visuelle, en fait une pré-configuration visuelle. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez la colonne grise, le fond blanc avec une espèce de papier qui rappelle un peu les petits cahiers Canada d'une certaine époque. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'était déjà là. Moi, tout ce que j'ai fait, naturellement, c'est les textes, rajouter les images, les cartes. Souvent, ils sont pas remontés un peu là. Des fois, je vais modifier les cartes, j'ai rajouté un rond bleu, dire où telle bataille s'est déroulée. Ça, c'est une bataille en Éthiopie. Donc, on peut faire des modifications, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que le volet visuel va faire que les lecteurs viendront ou ne viendront pas visiter le blog. Moi, je sais très bien, quand j'ai acheté ma voiture, par exemple, c'est sûr que c'est même pas le prix que j'ai regardé. J'ai regardé l'aspect visuel. Est-ce qu'on, le dedans aussi, l'extérieur, est-ce qu'on était confortable et tout, le bruit que le moteur faisait. Donc, les autres détails, bon, le prix, les taxes, les garanties, ça, je l'ai appris au bout d'un an, comment ça coûtait par mois réellement. Alors, voyons un peu, bon, mais ce que je veux dire, c'est je regarde une image du type qui rentre dans le magasin et qui consomme un produit de manière très impulsive. Je pense qu'il est important d'avoir une configuration visuelle intéressante. Et avant de céder la parole à Luc, juste un dernier point, il parlait tantôt des commentaires des visiteurs. C'est sûr que vous, quand on écrit un essai, généralement évalué par les pairs, on s'attend à un certain type de commentaire, positif ou négatif. Souvent, le pair va te dire, bon, corrige telle affaire, as-tu pensé à lire telle monographie, nanana. Quand c'est les gens, en général, qui réagissent, je vous dirais qu'il y a toutes sortes de commentaires. Et dans mon cas, autant j'ai eu des éloges que m'est arrivé par moment d'avoir des commentaires, un en particulier, qui frôlaient l'insulte. Ce qui est bien avec un moteur de recherche, c'est que essayez de configurer votre option qui vous permet de lire le commentaire avant la publication. C'est toujours pratique. Dans mon cas, je vous dirais que bon, presque tout le temps, les commentaires sont bons. Par moments, il y a des suggestions. Parfois, on me corrige aussi. Et ça, c'est dur pour l'historien, des fois, de se faire dire « Ah, ben là, moi, je fais souvent des articles de type un peu ethnologique. J'explique le fonctionnement des armes à feu à toutes les époques et tout. » Souvent, il y a un type qui va dire « Ouais, mais tu sais que tel fusil qui a été fabriqué dans le sud de la Bavière en 1622 doit se charger non pas à gauche, mais à droite selon une telle configuration d'après tel artisan. » OK. Non, mais c'est bien. C'est un méchant coup d'humilité. Et c'est une façon pour l'historien de se faire critiquer un peu son travail. C'est pas pire que si vous êtes un historien qui vous intéressez plus à l'histoire de la philosophie, on va critiquer vos idées. Mais c'est un peu, ça revient au même. Et comme je vous dis, les commentaires, par moment, j'ai publié un texte une fois, je vais terminer là-dessus, qui a été publié sur l'histoire engagée aussi, d'ailleurs, sur l'enseignement de l'histoire militaire au Québec, que c'était pas d'ailleurs, Olivier l'avait lu, merci en passant. Disons que, moi, le propos de mon article, c'était de dire que l'histoire militaire n'est pas assez enseignée, l'histoire des batailles et tout. Et le lecteur qui a fait un commentaire, que j'ai filtré avant, m'a dit ouais, monsieur le prétendu qui est historien militaire, qui ne savait pas grand chose, vous dites que l'histoire n'est pas enseignée, vous dites que l'histoire est trop enseignée dans l'université, l'histoire militaire. C'est pas vrai, l'histoire militaire n'est pas enseignée, nanana, mais le gars, il n'avait pas compris du tout c'est exactement le contraire qu'il disait dans mon texte. Et il me traitait de monsieur l'historien, supposément spécialiste en histoire militaire. Je lui ai montré le commentaire à Olivier une fois d'ailleurs, mais je l'ai laissé. Il ne m'a pas insulté, donc tant qu'il ne m'a pas insulté, je l'ai laissé, en espérant que quelqu'un le reprendra, mais je n'ose pas le faire. Je me fais plaisir un peu, donc sûrement quelqu'un d'autre le fera, c'est un peu sadique. Mais il faut juste vous dire, et je termine là-dessus, que c'est un coup d'humilité, mais ça, il faut réfléchir à ça aussi avant de commencer à faire un blog. Voilà. C'est à toi.
Merci, Carl. Dernier, en fait, je vais clore aussi parce que je pense qu'on est, rendu à peu près à la fin. La dernière chose que je voudrais ajouter, en fait, c'est à propos de la forme. J'en ai parlé de la forme tantôt, puis on l'a vu un peu avec le blog de Carl. Si vous voulez, je vous oblige pas. Pas si fun que ça à faire. Mais si vous voulez, allez sur mon blog et allez voir les premiers messages, les trois premiers. 3-4 premiers, aucune image, texte de 800 mots. Puis à un moment donné, je continue d'envoyer ça à mes collègues, les fameux, appelons-les les Fabulous 14, pour pas l'envoyer avec l'actualité. Si, non, c'est pas vrai, ils sont pas dans la construction à Montréal. Mais mes amis à qui je proposais le blog, là, je leur disais encore, mais venez là, tu sais, c'est 800 mots que je veux, on fait un clin d'œil, on montre un aspect de notre recherche. Puis là, ben, c'est là que quelqu'un m'a dit, puis moi, j'avais pas pensé à ça, parce que, encore une fois, je suis dans mon esprit de pédagogie. Donc, écrire un texte pédagogique. Puis là, il y a mes amis qui m'ont dit, c'est parce que ton blog, là, il est le fun, là, mais il est un peu... Ben, premièrement, c'était pas ce modèle-là, au départ. Je dis pas que celui-là est parfait, mais il est certainement mieux que l'autre. Parce que l'autre était... Comme noir sur vert, en tout cas, c'était dégueulasse. Donc, non seulement est-ce qu'un ami est venu me voir, puis m'a dit, choisis quelque chose de plus attrayant, mais il m'a dit aussi, mets des images. Et à partir de ça, j'ai dit, waouh, c'est quelle excellente idée. J'ai comme réalisé, non, mais pour vous dire à quel point j'étais, l'idée que j'avais du blog n'était pas à ce niveau-là. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que c'était un blog que je faisais, que j'étais sur Internet, qu'on avait la chance d'avoir accès à des images puis à des films. Moi, mon rôle, c'est de citer mes sources correctement. J'ai un bel. Jules, si on peut descendre. Merci. Du côté droit, vous allez voir, plus bas. Plus bas. Plus bas. C'est long, c'est incroyable. Oui, il y a toujours 5 premiers textes qui sont écrits. C'est ça qui arrive. Il y a eu plus de. Et voilà, petit texte à droite, ici, on monte un peu. Et voilà, on arrête ça là. Donc, ça, c'est les premiers textes que vous voyez, il y a beaucoup plus de sources que je citais à ce moment-là. Je continue de citer des sources quand je fais une citation directe, un peu à la manière de Carl. Donc, dès qu'il y a une citation directe textuelle, j'essaie de le mettre. Mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est les images. Vous savez, moi, en fait, un des problèmes que je vois avec le blog, c'est l'absence de propriété intellectuelle. En tout cas, c'est très difficile. Si vous avez des blogs et que vous essayez de faire respecter la propriété intellectuelle sur ce que vous écrivez, c'est un très beau défi. Surtout si vous êtes sur des sites du genre WordPress et Blogspot, là. Bonne chance! Mais, à tout le moins, j'ose espérer respecter, étant donné que je suis très bénévole, j'ose espérer respecter l'idée qui est derrière ça. Donc, si vous pouvez voir le petit paragraphe, c'est un peu le sens. En aucun temps, est-ce que je fais de l'argent avec les images que j'utilise, et si ça choque quelqu'un, je vais les enlever. Bref, c'est la seule chose pour moi qui est importante. Je continue de citer mes choix, je continue d'essayer de les utiliser, mais c'est ça. Je me rends compte que il faut la forme, le blog, pousse à ce genre d'adaptation-là. Puis c'est ça qui est très intéressant aussi par rapport au travail de l'historien. Donc, d'avoir accès à cette manne à peu près infinie d'objets, de pouvoir les utiliser, d'être conscient que ce qu'on fait n'est... Comment je dirais... En gros guillemets, pas toujours correct, parce que, tu sais, il y a des sites où tu peux aller et qui disent explicitement « N'utilise pas mon image, man. » Donc, j'essaie de pas le faire, mais le gros problème, c'est que il y a énormément d'endroits où ces images-là ont été recopiées. Donc, bref, si vous allez voir, à partir de maintenant, vous connaissez mon blog, si vous ne le connaissez pas, si vous allez dessus et qu'il y a une image qui vous choque, s'il vous plaît, dites-moi-le. Je l'enlèverai illico presto si vous possédez les droits, bien entendu. Mais bref, tout ça, c'était pour dire que justement, je vais finir là-dessus, pour vrai. Deux choses que je retiens du blog à partir de ce commentaire-là, puis depuis que je le fais. Non seulement est-ce que pour moi, ça reste un exercice de vulgarisation, donc un exercice pédagogique pour moi que j'essaie de faire, mais en plus de ça, deuxièmement, le blog, c'est ça, ça reste un exercice de vulgarisation. On s'adresse, comme Carl l'a dit, au début de son intervention, à la planète. On s'adresse à tout le monde. Pour moi, c'est important. Je ne suis pas un site de revue spécialisée. J'ai un site blogspot.com. Je m'adresse à tout le monde. Il n'y a personne qui pense que j'ai un comité de lecture. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Un exercice de vulgarisation. J'utiliserai le mot valorisation. Il y a un grand débat à y avoir sur la vulgarisation et comment l'appeler. Bref, sur la transmission des sciences aux gens qui ne connaissent pas les codes spécifiques à ces sciences-là. Me suivez-vous? Un petit bout de la tête, un pouce en l'air? Ok, merci. Donc, pour moi, c'est ça. Et deuxièmement, l'intégration des technologies d'information et de la communication, l'éthique, comme on appelle dans le milieu académique. Pour moi, c'est ça qui reste les défis. Utilisation des technologies, valorisation, vulgarisation, puis restriction pédagogique. C'est les trois grands défis du blog, de la façon dont je le fais.
Je ne m'éterniserai pas plus parce qu'avec le petit, les petits laïus qu'on a eu au début, je pense qu'on arrive à la limite de notre temps. Merci aux modérateurs de nous avoir avertis.
C'est
ça, c'est correct. Et puis, j'espère, du fond de mon cœur, qu'on va avoir droit à une discussion. Parce que c'est ça le but des cafés, comme je le comprends. Si vous avez des questions, posez-les. Et heureusement, nous ne détenons pas la seule vérité. On n'est pas des conservateurs du Musée du Louvre qui sont nommés à vie, si vous ne le saviez pas. Quel super job! À partir du moment où j'ai appris ça, j'ai essayé de devenir conservateur. Mais bref, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, les organisateurs, à partir d'ici, mais moi, ça va clore mon propos. Je ne sais pas si Carl m'a fini, mais bref, ça a été très agréable de vous parler ce soir.
Tout ça, puis voilà.
Moi, je vais m'asseoir, ça a l'air vraiment détendu. J'ai
une question à votre gauche.
Oui.
Dans les deux cas, en fait, vous parlez de votre électorat et des statistiques que vous avez. Puis c'est quand même des statistiques assez appréciables. Pour des sites, pour tenir un blog moi-même, c'est ben, je suis un peu envieux. Je suis je me demandais, est-ce que vous avez, sans pouvoir trop entrer dans les détails techniques de statistiques web, est-ce que c'est d'accès direct? Est-ce que vous avez des lecteurs fréquents? Est-ce que vous avez des lecteurs retournants? Est-ce que c'est des gens qui tapent sur Google, qui tapent pour voir les mots avec lesquels les gens arrivent sur un site internet? Donc ça, est-ce que c'est des gens qui tapent guerre, mondial, puis arrivent sur votre blog? Comment exactement c'est la mécanique? D'où ces gens-là, parce que vous dites que vous adressez la planète, d'où ces gens-là arrivent exactement? Ces gens-là qui ne vont pas lire les revues spécialisées d'histoire, qui ne vont pas aux bibliothèques historiques. Où est-ce qu'ils arrivent?
Merci de la question. Je la comprends très bien, mais dans mon cas, je n'ai pas la réponse précise, mais je pourrais l'avoir dans le détail près. C'est que, je ne sais pas pour Blogspot, mais dans le cas de WordPress.com, c'est gratuit au départ, mais il y a des options payantes qui te permettent de savoir ça. La seule option payante que j'ai pris, moi, Luc parlait tantôt de l'adresse blogspot.com, il y a son identifiant. Moi, au départ, mon adresse, par exemple, c'était www.carlpepin.wordpress.com. Ça me coûte 25$ américains par année pour faire enlever le WordPress. Donc, c'est carlpepin.com. Ça a l'air étrange, mais côté marketing, ça vaut la peine de faire enlever, ça c'est clair. Mais pour répondre à votre question sur les stats, moi, je ne sais pas. Je sais juste que quand je rentre dans l'interface du langage web, j'ai le tableau à chaque journée, combien de visiteurs. J'ai par exemple combien de gens ont lu tel article. Je peux avoir par moment l'adresse web à partir de laquelle, souvent c'est un email, à partir de laquelle ils sont venus. Mais j'ai pas, souvent c'est marqué facebook.com. C'est là que j'utilise des gens dans mon Facebook qui ont dû cliquer là-dessus. Mais sinon, je n'ai pas d'autres identifiants. Merci. Il paraît ça pour
les. Ben moi, étant sur Blogspot, et Blogspot ayant amélioré de beaucoup son service de statistiques depuis l'été 2010, ce qui n'était absolument pas le cas. Avant l'été 2010, c'était Google Analytics, puis on fait des efforts, puis on fait toutes nos recherches. Et aujourd'hui, ils l'ont encore intégré. Donc, c'est énormément de recherches, beaucoup de Facebook. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ça vient énormément de la petite promotion que j'ai commencé à faire moi-même. Au départ, c'est de là que sont venus le principal lectorat. Mais ensuite de ça, ce que je me suis rendu compte, en ayant voir les statistiques, je me suis rendu compte que à un moment donné, sans me le faire demander, il y a quelqu'un sur le site branchevue.com qui a plugué mon blog. Oups. J'étais très content. Et vraiment, dans cette semaine-là, là, j'ai eu un genre de pioum, c'est monté en flèche, mes amis, le lectorat. Il faut dire que ça, c'est un beau défi. Avant Google Analytics, j'étais essayé d'aller voir un espèce de compteur que j'ai pu mettre sur mon site Internet. Puis le compteur que j'avais trouvé me donnait 325 000 visites en dans deux mois. J'étais « Wow! » Puis après ça, je me suis tapé sur la tête, j'ai dit « Non! Ça se peut pas! » Puis donc, à ce moment-là, j'ai laissé tomber les statistiques jusqu'à ce moment-là. Mais en effet, vraiment, c'est une bébite que je commence à vous. Mais c'est ça, ce que je m'en rends compte, tout le réseautage que je fais par moi-même. Comme moi, je fais des articles de vulgarisation qui, je pense, peuvent être intéressants pour des gens dans les médias, je me suis tout de suite fait un compte Twitter. Twitter, si vous ne connaissez pas ça, c'est probablement parce que vous n'êtes pas dans les médias. Et si vous êtes dans les médias et que vous n'utilisez pas Twitter, bienvenue en 2008. Parce que vraiment, en fait, Twitter est une maladie grave, je pense. Peut-être que je me trompe. Ou un site internet, je sais, entre les deux. Non, mais je fais bien des blagues par rapport à ça. Je pense que les gens utilisent beaucoup, 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 beaucoup Twitter pour ça, s'envoyer des affaires. C'est grâce à Twitter qu'entre autres, je parlais de Branchez-vous, mais entre autres, il y a un blog sur la ville de Québec qui s'appelle Québec Urbain qui s'est mis, depuis les deux derniers mois, je pense, à, une fois de temps en temps, prendre des articles, les plugger, faire des liens sur Québec Urbain par rapport à mon blog. Et c'est à cause de Twitter qu'ils ont fait ça. Donc, pour moi, c'est ça. Ça a été d'utiliser ces fameux outils de technologie. Autant que moi, je suis sur Google parce que ça a l'air d'être mon adresse email, puis je me suis vraiment pas cassé la tête plus que ça. J'ai pas été chercher quel était le meilleur rapport espace-temps pour le serveur sur lequel mon blog gratuit serait hébergé. J'avais une adresse Google. Donc, en même temps, il y a toutes sortes de... Désolé, quand on parlait des politiques de confidentialité et de la propriété intellectuelle, c'est une autre histoire. Je regrette sur le WordPress, mais bref, pour finir sur les statistiques, le problème est un peu réglé ou non de cette façon-là. Beaucoup, un peu par Google, beaucoup par Facebook et Twitter.
Oui. Le problème est encore plus grand que beaucoup de publications qui sont faites au Québec ou par social.
C'est sûr que c'est dur à déterminer, puis ça serait peut-être prétentieux de dire ça aussi.
Au moins de clics, comme ça.
C'est sûr,
oui. Parce que là, le temps que les gens passent, que les gens lisent ou pas, ça, c'est une question.
C'est ça. Voilà. C'est pour ça, ça, je ne sais pas. Et ça, c'était la tu m'as fait comment vous y avez fait penser, monsieur. En parlant, que justement, est-ce qu'une visite sur la page, c'est une lecture? Et là, oh là là, moi, j'oserais pas faire de statistiques là, parce que je n'ai pas ces capacités-là, mais je pense vraiment qu'on est très loin de 100% de visite versus lecture.
Moi, je peux te dire, quand j'ai 15 personnes qui ont cliqué sur l'article L'armée italienne en 1887, je pense que c'est une lecture.
Une question.
Oui, mais merci beaucoup pour vos présentations respectives. J'avais une question qui, en fait, en vous écoutant les deux, je pense qu'il y avait un certain. Assez semblant par rapport au comité de rédaction de revues, disons, savantes qui peuvent donner des critiques, qui peuvent accepter ou bien pas accepter un article en vertu de. Des fois, c'est un peu de casino, hein. Bon, les contacts personnels, des fois, qui font en sorte qu'un très bon article ne va pas passer dans une bonne revue pour X raisons. J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu d'amertume par rapport au domaine universitaire, alors que vous, les deux, vous faites partie du... Bon, Luc, tu dis que tu commences une maîtrise à l'UQTR.
Un très grand cours de 2016. La formation
continue,
je fais de la
boue,
mais ça...
Mais tu vas continuer quand même ton programme universitaire et, bon, mais Carl, tu enseignes aussi en milieu universitaire. Ma question, c'est, est-ce que c'est possible de penser qu'on peut... Vos efforts de vulgarisation... Puis ils sont, je les connais, donc c'est des efforts qui sont très sérieux. C'est pas juste dire, bon, ben je vais parler d'un truc là, très rapidement. Vous faites des efforts sérieux, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez quand même attirer un lectorat, disons, universitaire? Ou bien ça, c'est complètement farfelu, c'est deux publics différents, c'est impossible. Voilà.
Moi, je vais commencer. Premièrement, je suis pas aigre. Parce que mon. Aucune amertume par rapport au comité de rédaction et autres, parce que au moment où j'étais rendu dans ma maîtrise, je vais vous expliquer très simplement pourquoi j'ai arrêté ma maîtrise, sans entrer dans les détails de ma vie personnelle. En plus, j'ai une occasion à faire, j'ai acheté les 6 associés à cette époque-là. Quand vous achetez une compagnie, vous vous rendez compte que vous mettez 80 heures par semaine à ne pas être payé, ben, la maîtrise que vous payez en plus, pas sûr que ça me tente vraiment de continuer à payer. C'est la principale raison de l'arrêt de ma maîtrise. Ce qui fait que l'occasion que j'aurais pu être publié, c'était dans un séminaire où, pour vraiment toutes sortes de raisons, j'ai remis le travail une session en retard. Donc, ça me donne une idée que c'est pas arrivé. Donc, aucune amertume par rapport au comité de rédaction. Même au contraire, maintenant, pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, mes blogs sont publiés, je les envoie, chaque fois que j'en publie un, et à mon sens, ça fait donc pour être publié sur histoireengagée.ca. Je collabore à la revue aussi. Et on me publie et je suis lu. Avec quel bonheur suis-je lu et ai-je du feedback? Et la plupart du temps, ce sont des commentaires que je trouve absolument pertinents pour la forme que j'ai. Je pense qu'on a compris l'esprit dans lequel je fais mon blog. Donc moi, il n'y a aucune amertume. Et c'est vraiment pas dans le sens-là que je disais. C'est vraiment dans le sens que... comment dire? Ben c'est ça, c'est... Il y a une liberté. Puis c'est pas la liberté contre. C'est la liberté par la liberté, dans mon cas à moi, très personnellement. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, à savoir maintenant si mon effort de vulgarisation peut être écrit par les scientifiques. Ça, c'est une autre histoire. Je pense pas que ça puisse être écrit par un scientifique. Si je fais un blog sur la mairie de Québec, je pense pas que c'est l'expert des maires de Québec qui va venir me lire. Je suis pas certain qu'il y ait un très grand intérêt. Ben, venez me lire, si vous voulez.
Pour dire les commentaires. Tu parles tantôt.
Mais exemple, pour moi, en tout cas, c'est pas à lui que je m'adresse. C'est pas à cet expert-là que je m'adresse. Tant mieux si c'est le game libre. Tant mieux si c'est pour vérifier que je fais pas de faute. Pour moi, tant mieux qu'on me lise. Mais très franchement, je n'ai pas le public historien professionnel en tête là, parce que je suis conscient que le public professionnel historien va avoir ses propres portes d'entrée sur ce savoir-là. Moi le premier, si un jour j'ai un problème sur la... c'est ce que je fais. Je veux dire, quand je commence mon article, c'est parce que je vois un problème dans l'actualité, j'essaie de trouver un lien. La première chose que je fais, je vais sur JSTOR pour trouver les articles qui ont été, puis j'essaie d'aller voir les sources, exemple. Donc si ça donne, que sur JSTOR ça marche. Pour venir deux fois sur une banque de données, j'essaie de trouver les articles qui ont été faits, de voir les auteurs, j'essaie de me documenter comme ça. Donc, moi, le premier, je ne tape pas dans Google, je ne vais pas dans Wikipédia faire, tu sais, choléra Québec 1832. Ah ouais, c'est super, là. 1800 morts, c'est une preuve, là, il y a un gars qui est ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, puis en même temps, ça ne voudrait pas dire que je ne le ferais pas, mais ce ne serait pas la fin de la recherche. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, pour moi, il n'y a pas d'amertume, et est-ce que je m'adresse à eux? Non, mais oui, tant mieux, s'ils viennent me lire. Puis, tant mieux s'ils peuvent trouver ça intéressant, puis tant pis sinon.
En fait, moi je dirais que la question ne me concerne pas vraiment pour deux raisons essentielles. C'est que la première, je n'ai pas l'intention de faire une carrière comme professeur au niveau universitaire. Je le fais, on me le demande, mais je ne me suis jamais envoyé de CV. J'ai eu plusieurs charges de cause, donc moi c'est pas dans mes plans. Moi c'est plus la fonction publique qui m'intéresse en général. Et la politique, je dois l'avouer aussi. Mais mis à part ça, l'autre raison, c'est que moi, c'est drôle, hein, parce qu'on parlait de réflexion tantôt avant d'écrire le blog, c'est qu'au départ, quand j'ai amorcé cette réflexion-là, c'est drôle à dire, mais dans les premières minutes, j'avais l'intention de le faire pour un public universitaire. Et non pas contre. Si on peut le dire, c'est pas de s'opposer face à l'autre.
Moi, je ne voyais pas de compte avec toi.
Non, ben, c'est ça, mais juste pour mettre les choses au clair, c'est juste
comme
pour...
s'il y avait deux publics différents.
En fait, mon public, au départ, que j'envisageais, c'était un public beaucoup plus académique. Pourquoi? Parce que les premiers articles que j'ai publiés là-dessus, j'ai repris mes propres textes que j'ai publiés dans toutes sortes de revues avec comités, des choses comme ça. Je les ai allégés et tout. Puis ça, c'est parti comme ça, sauf qu'à la longue, je me suis rendu compte que c'est des gens qui m'en parlaient, puis ils disaient « Ah, tu devrais faire telle et telle chose, plus vulgariser. » Au départ, j'ai dit non. Au départ, je voulais rien savoir de ça. Puis à la longue, à force d'en faire, on y a pris goût, puis c'est parti comme ça.
Hey, je peux-tu poser une question, moi? Avant de venir ici ce soir, est-ce que les gens avaient été consultés les blogs en question? À main levée, là, mettons, là. Ceux qui ont été... Une fois minimum.
Même sans lire,
juste pour cliquer et dire ah non, je malade, je n'aime pas ça. Ok, ben non, mais merci. Ben tu sais, je veux dire, c'est ça. Pour susciter la discussion, moi je pense, au contraire, je pense pas que c'est nécessaire. Fait que je suis content à la limite de voir que c'est des gens qui ont jamais été. J'espère qu'on s'est gagné du lectorat. C'est pour ça que je faisais ça. Je vais faire 0 piastres fois 30 geeks, là. Fait que, donc, t'es là, 30 fois 0, tant un peu, là, je me joue vite.
T'as
vu,
Parce que ça quand même, généralement quand on dit historien, c'est ce qu'on recherche. On ne sait pas bien qu'on ne peut pas le latin, mais on le recherche. Là, c'est tout à fait louable de vouloir créer un pont entre la tour de France et le grand public. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on ne sacrifie pas une part de la GEP sur l'autel de l'évaluation?
Je ne sais pas. Ben, en fait, ça me fait penser à l'article sur la justement, qui est venu sur l'histoire. Disons que moi, dans mon cas, c'est drôle, c'est bizarre, c'est bizarre, je ne me suis jamais trop posé la question, malgré ma longue réflexion sur le bloc. Pour moi, la vérité demeure à la base des faits. Moi, je l'avoue candidement, j'ai toujours été un historien qui a davantage été intéressé aux faits. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque j'interprète, c'est davantage pour analyser les actes de certains personnages, de certains individus, dans des contextes bien particuliers. Donc, et c'est pour ça que à certains moments, les lecteurs qui vont commenter les articles vont contester ma soi-disant prétention à la vérité. Parce qu'effectivement, n'importe qui peut arriver et dire « Bon, mais tu es vraiment sûr qu'il s'est passé à l'affaire et tout. » Je l'ai parlé tout à l'heure, quelqu'un m'a corrigé. J'ai fait une erreur à un moment donné lorsque j'analysais certains armes et j'ai laissé le commentaire. Donc, j'aurais pu très vite le censurer et le dire « Non, ben, et j'aurais pu hypocritement corriger mon texte et ajuster, mais je ne l'ai pas fait. » D'ailleurs, autre exemple, ben, c'est ça. C'est quand on dans notre domaine, il y a toujours un volet disons, très théorique quand on étudie les stratégies et les tactiques. Il y a un volet très factuel au niveau des batailles et il y a un volet très technique, je dirais quasiment anthropologique ou ethnologique à la limite, lorsqu'on étudie les équipements, les armes et tous les soldats, parce que ça je pense, ça contribue à la compréhension qu'on a du phénomène qu'a été la guerre à travers les époques. Donc, l'aspiration à la vérité quand on joue dans ces trois volets-là de l'histoire militaire est très variable. Donc, le niveau n'est pas mieux. Moi, je pense que je baigne également dans les trois volets. Je m'en rends compte très bien aussi quand j'ai vu des fois. J'ai pas eu vraiment de spécialistes encore qui m'ont contesté ce que j'appréhende ce jour-là. D'une certaine façon, pas bien franc. Mais le jour où on contestera, tant que ça demande du respect, je vais laisser le commentaire sur le pour ça répond.
Moi, c'est à un autre niveau que je vois ça, parce que je n'ai pas la prétention de creuser ça, de découvrir la vérité. Je n'ai pas la, je dis prétention, je n'ai pas la mission, à mon sens, je ne découvre pas la vérité. À quelques rares occasions, d'après ce que j'ai, je reviens sur mon fameux article, la Moses de Pierre Blanche, pour vous donner une idée, jusqu'à il y a 3 ans, il y a personne qui était sorti dans le public pour savoir. Puis même les gens de la famille qui savaient c'était qui avait mis la pierre blanche là, ils n'étaient pas sûrs pourquoi. C'est à peu près une des seules fois où j'ai servi la vérité, tu sais, au sens large et noble, avec un V majuscule, puis à mon sens, selon ma compréhension de la question, tu sais. Autrement, comme l'exercice, c'est un exercice pour moi qui est très pédagogique, qui semble beaucoup dans la vulgarisation, et que j'aurais jamais l'occasion, à mon sens, de par la simple nature du travail que je fais avec ce blog-là, en étant quand même en train de faire des recherches au travail toute la semaine, puis forcément, les recherches que je fais actuellement dans les sources sur la milice canadienne, j'ai encore beaucoup de misère à part quand il y aura raison de mettre ça dans les médias, peut-être que j'aurai un résultat de recherche à communiquer. C'est pour ça que c'est en parallèle avec le savoir académique. Là, je ne veux pas entrer dans, encore une fois dans un débat des mots, c'est peut-être pas le bon mot, mais en fait, avec la connaissance académique, c'est en parallèle à ça. Je ne suis pas un créateur de vérité, je suis un. C'est ça, je la produis pas, je la transmets. C'est pour ça que c'est beaucoup plus, c'est en histoire que je fais mon travail, c'est l'histoire qui m'intéresse, c'est avec une formation d'historien que j'aborde mes sujets. Cependant, c'est le communicateur et puis le valorisateur de ce sujet-là qui parle et qui transmet ce savoir-là. À ce sujet-là, qu'un savant vienne me dire que factuellement, mon texte n'est pas correct, s'il vous plaît, tu sais, mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est la vérité avec un grand V qui est sur ce blog-là. Pour moi, c'est une façon, une porte d'entrée différente à des gens savants ou non, dans des sujets qu'ils ne connaissent généralement pas, ou des rappels historiques pour eux. C'est pour ça que j'espère. Moi, ma vérité a un petit V. Ou un V. Tu sais, un V. Comment dire? Tu sais, c'est un V cool, là. Tu sais, plus un V chopper qu'un V camion, tu sais, dis-vous, avec toutes les sources.
C'est un V moto pour qu'on. Une question complémentaire pour compléter. Je sais pas, le fait aussi, on parle de vérité, disons, avec un calendrier, pour répondre à la question, c'est que moi, c'est sûr que quand tu écris un blog, puis que, par exemple, quelqu'un qui prend sa retraite, qui décide du jour au lendemain de devenir historien amateur, comme beaucoup dans ma région, je vois qu'il y a des professionnels parmi nous ce soir, j'en suis un aussi. Je pense que les années d'expérience, je vais avoir 33 ans bientôt, ça fait, disons, sans prétention, une quinzaine d'années que j'étudie à fond là-dedans. Bien qu'il y a des tics et des réflexes qu'on développe. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui conteste ma soi-disant vérité, il est mieux d'avoir des bonnes bases. Bon, je ne suis pas bien sûr, mais disons qu'il est mieux d'avoir des bonnes bases quand même. Puisque souvent, surtout en histoire militaire, les historiens dans ce domaine-là vont s'assigner sur des chiffres. Il y a eu 10 morts, il y en a eu 13 dans une bataille. Mais honnêtement, là, okay, c'est pas vraiment important. Par contre, là où ce que le bas blesse souvent, c'est quand on porte un jugement sur les actions d'un personnage ou d'une armée ou enfin peu importe, et qu'on se permet de juger ces soldats-là étaient idiots d'avoir attaqué, ils savaient qu'il y avait des mitrailleuses en face, puis ils vont se faire tuer, on va nous faire attaquer. Donc il y a toujours une nuance à faire. Donc c'est au niveau de ce sens-là que je pense que c'est là que ça me ferait plus mal si on me critiquerait sans fondement.
Moi, j'étais curieux de vous entendre un petit peu sur la forme. Est-ce que vous avez changé votre façon d'écrire pour vous adapter au médium web parce que vous avez parlé d'articles? Qu'est-ce que vous avez changé, en fait, pour être lu, pour être... Moi, j'ai parlé des images, mais au niveau de l'écriture,
comme ça. J'ai changé deux choses. J'ai encore ce problème-là. Souvent, quand j'écris, j'ai tendance à faire des longues choses. Je joue beaucoup avec les appositions et tout. Donc, j'essaie de travailler ça, mais d'employer des mots plus simples aussi. Sauf que, au grand jamais... L'histoire militaire, comme n'importe quel domaine, moi, c'est terminologie, il y a des concepts très particuliers. Jamais je ne vais sacrifier ces concepts-là. Un fourquin, c'est un fourquin. Donc, ça demeure la même chose, c'est une pièce d'un fusil. Donc, il n'y a pas de synonyme, il n'y a pas de... Donc, ça, je pense qu'il faut demeurer intégral là-dessus. Mais quand même, mon langage, j'écris pas un langage simple. J'écris pas mal pareil, comme quand j'écrivais mes textes à l'université. J'utilise pas un mot que je comprends pas. J'ouvre le dictionnaire, si je veux être sûr. Ou si j'ai un doute, par exemple, si ce que ce mot-là est bien utilisé dans ce contexte-là. Parce que j'ai écrit un article à un moment donné sur le phénomène de perte, au pluriel, en histoire militaire. Tant de soldats tombent sur... Souvent, c'est un concept qui est utilisé à toutes les sauces dans les articles. Est-ce qu'on parle de mort, de blessés, de disparus, de prisonniers? Et souvent, les auteurs, des fois, c'est même pas, ils font même pas la distinction. Les Canadiens ont perdu 10 000 hommes à la bataille de Mimi, on les a mis 10 000 pertes. Ouais, mais c'est quoi ça? Combien de morts là-dedans? Combien de blessés? Combien sont venus le lendemain de la bataille pour continuer? Parce que les gars n'avaient pas l'infirmerie tout le temps, ils étaient blessés, ils repartaient au combat tout de suite après. Donc, cette nuance-là est importante. Puis, juste un dernier point, au niveau de la présentation visuelle, moi, je me suis rendu compte d'une chose. Au tout début du blog, j'avais pas ce format-là visuel de ce qui est actuellement. J'avais un format, disons, beaucoup plus beige. La beige WordPress.
pas beau beige.
Ben non, pas beau. Ça a l'air un peu étrange, mais dès que j'ai assez toutes sortes de configurations, il y a un mot cristal dans le langage bloc pour dire qu'on change les styles. J'ai oublié, c'était quoi le mot? C'est une question d'arrière-plan. Mais au départ, j'avais à peu près 25, 20, 30 visiteurs par jour. Et dès le moment où j'ai changé la configuration esthétique, ce nombre-là, et je ne vous mens pas, a triplé environ par jour. J'en parlais tantôt de l'importance de l'aspect visuel.
Pourquoi tu penses une question de crédibilité ou de
chose? Ben, je me demande des fois si c'est pas ça. Tout ce qui est beau, on dirait. Ouais. Okay. Quelqu'un qui vient d'être dit paraît crédible, on dirait c'est ça. Mais ça fait trop fort. Non, mais je pense que souvent les gens dégagent une image qui n'est pas nécessairement celle qu'on voit. Et donc, c'est ça. Moi, je fais du sport militaire, mais je déteste la guerre. Je suis un homme d'Afghanistan, je ne visitais pas. J'ai pas peur de la guerre. Mais justement, c'est pour ça que c'est pour mieux la comprendre.
Vraiment,
J'ai parlé au début de mon intervention. C'est pas ça dire que c'est une compte de ma causerie. Que ce soit. Je parlais au début de ma causerie que j'avais eu une expérience à la télévision. La télévision, je me suis rendu compte d'une chose. C'est vraiment niaiseux ce que je veux dire. C'est des images. Vous dites, ben oui, évident. faire un topo de 2 minutes où on voit la face pendant 15 secondes, c'est là que tu te rends compte que les images, il en passe une autre et une autre et une autre. Je me suis rendu compte que la télévision, c'est. Tu prends ton message qui flotte là, dans l'air, qui est dans toute la pièce, tu réussis à la mettre dans la tasse de thé qui est juste là. Waouh, c'est impressionnant. Moi, à partir de ce moment-là, puis 2 ans avant la télévision, j'avais eu une série chronique à la radio de Radio-Canada l'été, de 12 minutes. Oh, tabarouette. Ça, c'est. On parle du savoir, on le met dans la pièce, le savoir qui vogue autour de la ville, disons, là. Là, on le met dans la pièce, 12 minutes. Puis après ça, on le met à la TV, 2 minutes, ouais. Dans la tasse. Okay? C'est pour ça que moi, je me concentre. Et mon style d'écriture ressemble à ce que je me préparais à la radio. J'essaie de penser que j'allais me faire écouter. J'essaie de penser que je vais me faire lire. Parce que si je fais de la vulgarisation et que j'espère pas m'adresser à quelqu'un, j'espère. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. J'espère pas être lu, mais je le fais pour quelqu'un d'autre. L'exercice pédagogique, pour moi, il est là. Essayer de continuer d'offrir quelque chose dans un... Et puis c'est pour ça que j'essaie de me limiter à des textes qui ont moins de 1500-2000 mots. Donc, qui tiennent sur à peu près 2 pages, là, grosso modo, là, qui est un peu moins, en fait. Pour moi, ça fait partie de l'exercice. Ça fait partie de l'exercice et c'est... Je ne modifie pas mon style, en tout cas pas consciemment. Peut-être parce que je n'ai pas assez frayé dans le milieu académique. Pas assez longtemps. Et que j'ai toujours gardé un style qui était assez direct. J'essaie de prendre le recul nécessaire. Rarement, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais rarement, je parle au jeu dans mes textes, dans mes blogs. Rarement, je présente mon opinion. Mon opinion passe, c'est certain, elle va passer à travers mon choix de sujet. La façon dont j'essaie de prendre mon angle, le miroir que je veux mettre sur l'actualité pour le placer par rapport à l'histoire, l'angle que je lui donne, c'est moi qui le choisis. Le choix, est-ce qu'il est conscient? Je pense pas. J'y vais vraiment comme ça sort. Puis là, à un moment donné, je me mets à écrire acide, maison, chien, c'est l'écriture automatique, c'est capoté. Non, c'est pas ça. j'essaie de me placer rapidement, une espèce de. Je sors mon texte. Des fois, j'enlève le paragraphe, je le recommence parce que ça n'a pas de sens. Mais j'essaie d'être le plus succinct possible parce que l'esprit de vraiment de synthèse dans ce cas-là, pour moi, est très important. J'essaie de me limiter. Ça arrive que j'enlève des propos de mes blogs parce que je les trouve trop longs.
C'est pas un café causé. Non, c'est ça. Moi, je viens de sociologie qui a une foulée d'articles très à la mode sur l'utilisation des réseaux sociaux du blog comme forme de reconnaissance identitaire, de façon de se faire reconnaître, de se faire aimer, de s'exprimer. Là, je vous regarde aller puis trouver ouvert la porte là-dessus. Qu'est-ce que ça vous apporte en termes de reconnaissance de l'expertise en dehors du monde universitaire? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous avez l'impression que. C'est un peu le côté, parce que le blog, c'est très s'exprimer, donner une information qui n'a pas été demandée. C'est vous qui choisissez les thèmes, c'est vous qui décidez du contenu, parce que vous, ça vous intéresse.
C'est sûr.
Vous voyez que les gens vous lisent, qu'est-ce que ça vous apporte en
fait? Regarde, le titre de cet article-là, c'est mon dernier. Je pense que c'est assez évident. Là. Il n'y a personne qui se lève le matin et qui a pensé à ça. Là. Non, je dirais que c'est assez jouissif, en fait. C'est pas un power trip, mais c'est un certain contrôle de. C'est la liberté totale, là. C'est vraiment magnifique. Mais cet aspect-là, précisément, ne me trottait pas dans la tête au moment où j'ai commencé mon blog. En explorant des sujets, puisque moi, mon premier réflexe, c'était de me réfugier dans l'histoire militaire canadienne, qui était initialement mon champ de recherche, mais avec le temps, surtout les 2 conflits mondiaux, mais avec le temps, disons que j'ai commencé à développer d'autres aspects. Des fois, c'est par des conversations. Souvent, mon inspiration va venir tout simplement, j'entends quelqu'un parler d'un sujet, je vais travailler là-dessus. Donc, c'est pour ça que moi, c'est comme ça que ça me vient. Et c'est génial ce qu'on trouve.
Moi, il y a une chose. En fait, j'ai trouvé ma voix récemment. Alors, j'en mets, c'est. Je prends cette. Consciemment, en tout cas, j'avais pas ce réflexe-là quand j'ai commencé. Et puis, il y a un sujet que je me suis rendu compte, il y a une chose qui me touche particulièrement et sur lequel j'ai écrit 2-3 messages. J'ai fait 2-3 essais sur mon blog où, entre autres, je parle du rôle, là, je dirais, historien professionnel hors de l'université. C'est difficile parce que l'histoire se pratique beaucoup à l'université, dans les universités. Et puis ceux qui font de l'histoire à l'extérieur des universités, ben, c'est comme des historiens professionnels, mais bon, ils font pas la même chose. Puis en tout cas, mais bref, à propos de la pratique extra-universitaire de l'historien, je me suis mis à faire des choses là-dessus. J'ai écrit un petit message sur, entre autres, l'historien des médias, des conseils slash... comment dire, une précaution à prendre, puis tout ça. Puis là, après ça, j'ai écrit un grand message sur l'interprétation de l'histoire. Interprétation, non pas au sens qu'on veut bien lui prêter en hermeneutique, mais vraiment au sens patrimoine. 1957, Freeman Tilden, qui a, je ne peux pas vous cacher, un énorme lien avec le procès. Je parlais un peu des études que je faisais actuellement, donc des études que je fais actuellement. Et pour moi, je me suis rendu compte d'une chose. Étant guide depuis 10 ans, pour moi, c'est une déformation professionnelle. Moi, je parle d'histoire dans ma vie. C'est ce que je fais tous les jours. J'en parle. D'une façon, pour moi, c'est une façon d'aborder... Là, je touche le bout de la tête. Parce que si je pouvais être sur Internet, je toucherais. Mais ici, c'est un Wi-Fi, effectivement. Je ne peux même pas toucher le câble bleu. Fait que je touche l'ordinateur. Internet, pour moi... comment je dirais, le blog en particulier, pour moi, c'est une façon de parler de ce que je trouve qui est intéressant, mais que je ne peux pas parler, par exemple, dans mon travail, ou que je ne peux pas parler, par exemple, dans mon travail. Ben, c'est ce que j'allais dire, par exemple, dans mon travail, ou dans mon travail, parce que j'ai deux jobs, c'est pour ça que je fais ça vraiment un lien. Et c'est un peu ça. Donc, essayer de parler de choses que je trouve le fun, puis vraiment des clins d'œil, puis vraiment des choses qui me font sourire, qui vont être intéressantes, que même tout un jour, ce soit. Quand que le conseil de ville a décidé qu'il ne faisait plus la job, le maire trois jours, c'est dans le cadet de l'hôtel de ville. C'est super, hein, quand on pense à ça. Moi, ça me fait rire. Peut-être pas vous autres. Moi, le matin, je me lève et je pense à ça. Je rigole un peu. Donc, pour moi, c'est ce genre de clin d'œil-là. Donc, parler de choses que je trouvais le fun de parler, puis en même temps, avec toujours l'exercice pédagogique que je garde. Donc, un, ça, c'était pour les blogs historiques. Et deux, il y a l'aspect vraiment interprétation. Et puis, pour moi, de faire de l'interprétation, que d'avoir une formation d'historien, de lecture des sources, de critique des sources, et puis de faire de l'interprétation, pour moi, c'est quelque chose qui peut aller de pair. Puis malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fera pas beaucoup, assez, à mon sens, pour une raison claire, c'est parce que les interprètes, on les considère autant que les caissiers du couche-tard, dans 90% des organisations.
Chef caissier.
90% des organisations. Puis, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Et puis, à partir de ce moment-là, moi, ça va devenir quelque chose d'important pour moi. Puis ça, je m'en rends compte. Puis je vais essayer le plus possible de garder ça à l'extérieur de mon blog, parce que pour moi, c'est pas le même but. Mais ça se peut qu'une fois de temps en temps, ça fasse 6 mois que je tienne mon bureau de même, parce que je me dis, là, ça n'a pas de bon sens, il se passe quelque chose, puis on est encore en train de passer en arrière de n'importe quoi. Puis j'entends dans telle place, toute la semaine, j'ai entendu l'exemple que dans le musée X, le guide, il ne vous donne pas de formation sur. Puis pas sûr comment parler à une foule, puis comment faire un balayage, puis parler à la foule. Puis ça, c'est des techniques, ça s'apprend. Mais comment réussir à aller chercher l'information, à bien l'analyser dans un discours, à la façon d'un historien, pour moi, ça, c'est majeur. Puis pour moi, à ce moment-là, j'espère être lu et j'espère être entendu. C'est pour ça que je dis que j'ai trouvé ma voix, parce que pour moi, ça va devenir quelque chose de très important dans ma pratique professionnelle, que de réussir à faire respecter ce travail-là. En tant qu'historien, qu'on est capable, qu'on a une capacité supplémentaire, ben, pas supplémentaire, mais parallèle, je dirais, à interpréter de l'information, à prendre une certaine information, puis à pouvoir la communiquer à, je dirais, à notre façon, mais bon, à la façon historienne. Bref, c'est un peu ça. Puis à ce moment-là, je pense que je rentre plus dans... Il y a plus une... volonté d'être entendu, un espoir, mais sinon, c'est ça, sinon, c'est comme je fais l'over gratuit, c'est sur mon blog, je fais l'over gratuit, puis entre-temps, ben, je m'y lève. Mais comme ça n'arrive jamais,
puis que de toute façon, les gens l'ont dit, non, mais je veux entendre l'histoire du maire qui est resté trois jours, je m'en fous de l'histoire d'interprétation, c'est quoi cette histoire-là, on n'y pas ça, tu sais. D'ailleurs, c'est loin d'être le message que le plus de lecture. Tu sais, je compare à mes messages sur les Bulldogs de Québec et le hockey à Québec, qui eux, oui, marchent. Ah oui, c'est ça.
La mafia partie dans la boîte.
Excusez.
Non, non. Parce que je veux laisser après ça les gens pour aller.
Ah oui.
Dernière question. Moi, je me questionnais aussi sur le rôle des médias sociaux. Je voulais savoir pourquoi le blog plutôt que le site web. Parce que pour moi, un blog, c'est une façon de créer un dialogue entre l'historien dans ce cas-ci et puis le public. Et puis, ben, pour moi, c'est le plus value de la chose. Quelle est l'importance vous accordez à ce dialogue-là? Puis de quelle façon vous pensez que votre responsabilité d'entretenir ce dialogue?
Je connais l'analogie de la plante en conférence, ça me servait pour faire ça. Mais pour répondre à la première partie de la question sur le site web versus le blog, moi je dirais qu'en 1997-98, je suis rentré à l'université en 1997, j'avais démarré un site web sur une histoire générale de la Première Guerre mondiale. Et j'ai aimé ça dans la mesure où j'avais une avalanche, Internet commençait aussi à cette époque-là, j'avais une avalanche de commentaires généralement positifs qui venaient de France. D'ailleurs, les citoyens français à l'époque, j'étais un kid, un enfant, je suis allé là-bas, ils m'ont invité et tout, à venir parler de ça, ils ont des spécialistes. Eux autres, ils n'en revenaient pas, puis ils découvraient la forme web comme une petite communication. Une décennie plus tard, bon, cette forme-là, c'est le blog maintenant. Ce sera autre chose, peut-être un hologramme dans 50 ans, je ne sais pas. C'est bref, il va toujours avoir des nouveaux moteurs de communication. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans le cas du site web, je ne suis pas un féru d'informatique non plus, c'était difficile d'agencer les images. Et il y avait un gros problème, c'est que ce que je voyais à l'écran, ce n'est pas ce que mon voisin voyait sur son écran toujours. Et ça, c'est une hémophobie. D'ailleurs, je constate ce que je vois là, c'est pas mal pareil que ce que je vois sur mon ordinateur. Et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'avec le blog, il y a déjà un moteur préconfiguré des arrangements. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est quand j'écris un texte, j'ouvre Word, Office, j'écris le texte. Après ça, je fais un gros copier-coller, j'envoie ça sur WordPress, et là, j'insère des images. Ça, par exemple, comme cette image-là de Gobleicher, qui est un ancien espion allemand, cette image-là, au départ, le problème, c'est quand je veux la mettre, le texte qui est à côté n'est pas justifié, donc il est tout croche. Et l'autre problème aussi, c'est quand, je ne sais pas c'est quoi la technique, quand je mets une image, j'ai toujours un éclairage de 5 ou 6 lignes. Donc, il faut que je remonte ça manuellement. Et c'est moins difficile à faire qu'à l'époque du site web. Et que je vais justifier le paragraphe. Après ça, je vais ajuster la taille de la légende pour essayer de arranger autant que possible. Elle ne dépasse pas au moins la dernière phrase. Donc, il y a tout un aspect esthétique. Et au début, honnêtement, j'étais découragé avec ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, le blog, il faut l'entretenir. C'est une plante peut être malade des fois. Il y a des difficultés. Donc, il faut trouver des remèdes. C'est quoi la deuxième question? Quelle importance vous accordez au dialogue que vous créez avec vos lecteurs, parce que pour moi c'est ce qui est intéressant dans le dialogue, c'est l'extrêmement important que les commentaires soient bons ou mauvais, il y a un dialogue qui se fait souvent, je vais répondre à mes propres commentateurs, mes propres lecteurs sur l'article même, d'ailleurs si on descend complètement comme dans tous les blogs en général, merci, il y a toujours, ah ben non, je pense qu'il y a plusieurs articles. Clique sur voir plus récent. Juste en bas, voilà. Ici. C'est sûr que le visiteur qui va là, tout un article récent, va rentrer son commentaire, son nom, ses coordonnées. Moi, quand je réponds via le même formulaire, exactement la même chose, que je peux faire par contre à l'intérieur de WordPress. Et j'entretiens une dialogue comme ça. C'est ma responsabilité. Et quand le type, tout à l'heure sur un article, qui n'avait pas compris l'essentiel du propos, m'a largement critiqué, j'ai publié le commentaire, j'ai vu que ça pourrait comme un insulte. J'ai pas donné, c'est pas dans ma personnalité comme tel. Ça peut arriver qu'on se fasse insulter des fois. Mais moi, je suis pas le genre, surtout quand l'insulte est non fondée, en plus, je donne pas la réplique. Mais dans son cas, j'ai autorisé le commentaire, mais j'aurais pu pas le faire. Et là, on aurait pu m'accuser, ah ben là, tu fais tes commentaires, tu sens ça. Donc, preuve que j'accorde quand même.
Si, je vais aller vite, moi pour le blog, c'est simple. Pour moi, là, c'est vraiment parce que c'est plus facile. De un. De deux, ça permet de donner des messages. C'est ça, la façon de mettre des messages en ligne, de les organiser, le mode de gestion du blog, pour moi, est beaucoup plus simple que d'avoir un mode de gestion équivalent sur un site Internet, et sauf que de devoir le programmer moi-même, qui... je connais le code HTML. En 98, c'était hot. Mais en 2010, là, je m'en... Tu sais, je suis pas là. Première chose. Deuxième chose, c'est difficile pour moi de répondre à la deuxième question. Je vous explique pourquoi. Peut-être que par... On vient sur les statistiques de tantôt. Peut-être que parce que mes statistiques impressionnantes, ce ne sont que des... Je note, je voulais pas cliquer là-dessus. Peut-être qu'il y a une partie de ça. Et pour moi, ben, je trouverais ça plate. Mais ça ne me ferait pas arrêter nécessairement mon blog. Si j'avais des commentaires, j'aimerais ça. Je ne pourrais pas passer ma vie, je l'ai dit là-dessus. Mais j'aimerais ça. Je me suis fait un devoir d'aller répondre aux commentaires que j'ai eu. J'avais pas eu beaucoup. Là, je me suis posé la question souvent pourquoi j'avais pas de commentaires. Puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si j'arrive sur un article de. Un article dans un média, disons sur le site du Devoir de Cyberpress. Souvent, je fais des références à ces sites-là dans mes introductions d'articles. Si j'arrive sur un de ces articles-là, et puis, par exemple, sur les tramways de Québec, là, le maire à Beaune, là, il aime ça les tramways, puis il va en faire construire en Basseville, puis super. Là, je me dis, ah, OK, idée d'article, je vais faire un article sur les tramways qu'il y a eu à Québec. Ce que j'ai déjà fait. Donc, moi, ce que je me demande, c'est si je tombe sur l'article de Tramway Québec, à part si j'ai une correction ou une tape dans le dos, là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce. Moi, là, qui réagis beaucoup sur Internet, qu'est-ce que j'irais dire, tu sais? Mis à part, là, regardez ça, je fais comme, ah, tu sais, ben, je sais pas. Alors que s'il y en avait un commentaire, parce que, justement, j'aurais fait une faute factuelle majeure où j'aurais découvert la vérité, nouvelle vérité, ben, j'aurais aimé ça, avoir peut-être un commentaire où peut-être que je serais plus à même de le susciter. Ce qui n'est pas nécessairement le cas présentement. Est-ce que c'est volontaire de ne pas le chercher? Non, je ne m'écris pas en me disant « je ne veux pas m'en faire parler ». Mais je pense que de la façon dont je fais mon blog, de par mon sujet, ça n'appelle pas à la discussion, au débat. Et puis, en ce sens-là, je me place beaucoup plus dans la partie informée que dans la partie exprimée du titre de la conférence de ce soir. Donc, en cela, je ne... Ça, j'ai reçu les humoristes font ça, ils laissent leur show, tu sais, comme une histoire par rapport sur leur histoire de chasse, puis à la fin, ils sortent le bot. Salut, Québec! Ils s'en vont. Fait que c'est
moi, je racontais l'affaire du maire qui s'est enfermé dans les cours de calèche.
Ah, OK. Fait que c'est un truc de calèche.
Non, c'est pas sûr qu'il savait.
Ah, OK.
Je m'excuse. C'est bien.
Mais bref, c'est un peu le... C'est un peu la réponse.
Bon, ben, je voudrais qu'on applaudisse bien fort. Mais... d'avoir autant de temps pour les questions qu'il y a pour la conférence. Et puis, je me disais, bon, est-ce qu'on peut y arriver? Mais manifestement, on aurait pu en parler encore pendant les heures. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, je voudrais remercier Luc et Carl d'avoir été si généreux en temps et en parole ce soir. Merci à Nicolas Fortin du Catherine aussi, qui fait, selon moi, le meilleur métier. Donc, je remercie à tout le monde qui s'est engagé aussi. Donc, voilà, si vous voulez poursuivre la discussion avec nos deux conférenciers ou encore par Internet, pour ma part, les services de Six Associés, on a notre page Facebook, on a aussi notre site au www.sixassociés.com, donc vous pouvez nous suivre. Également, histoireengagée.ca. Alors, le site est de plus en plus. Voilà, et on a Luc à gauche. Donc voilà, on est tous ensemble dans cette belle aventure. Donc voilà, on travaille très fort pour essayer de mousser ces sites-là pour que ça fasse des lieux d'échange intéressants. Donc je vous invite à aller regarder ces sites-là. Et puis, une petite pub en terminant. Donc, le café de ce soir, c'est le premier d'une série de 4. Donc, on fait une relâche pour Noël. on vous laisse faire votre magasinage. On reprend ça en janvier. Le 27 janvier, ça va être au café temporel en Hauteville. On va revenir ici en février seulement. Et là, ça inclut Pascal Rousseau qui va vous entretenir du métissage entre Québécois et Amérindiens. Donc, vos sujets de discussion aussi. Donc, merci beaucoup tout le monde.